France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. Comme l'écrit le journaliste Gilles Heuré dans le hors-série de Télérama consacré au bonheur, le bonheur c'est ce mot fluide, indécis, essoré peut-être d'avoir été trop dit. Oui, le bonheur est un mot flou, chacun projette ses définitions et ses espérances. Mais comment trouver un hypothétique bonheur dans cette période de plus en plus anxiogène et incertaine? Récemment, il y a eu le Covid et en 2020, nous posions la question du bonheur au temps de la crise sanitaire. Et puis il y a eu la guerre en Ukraine, les menaces russes sur notre sécurité, la guerre entre le Hamas et Israël, le risque d'escalade entre l'État hébreu et l'Iran, l'interminable crise inflationniste, le réchauffement climatique et bien d'autres périls. Bref, peut-on décemment rechercher le bonheur alors que notre planète vit des bouleversements inédits depuis la fin de la guerre froide? Humain, trop humain, nous sommes voués à le rechercher, ce bonheur, tout de même sans jamais pouvoir l'atteindre durablement si l'on écoute ce bon vieux Pascal. Alors comment trouver le bonheur en 2024? C'est notre thème ce matin avec Télérama. Et qu'est-ce qui rend heureux les Français? C'est la question que le cabinet Sociovision a posée à un échantillon représentatif de la population française. Réponse en cours d'émission. Et vous, quelle est votre définition du bonheur? Qu'est-ce qui vous rend heureux en ce moment? Trouvez-vous la quête de bonheur indécente en ce moment? Nos expertes et nos experts vous attendent au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 par message et note vocale sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Marie-Laure Sonnenschein.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef à Femmes Actuelles. Quel est le menu de vos questions toujours pertinentes?
Faut-il se contenter de petits plaisirs faute de mieux, de moments furtifs, affronter la réalité, accepter le malheur pour prendre la mesure du bonheur? Un peu de tout cela sans doute à condition de tomber d'accord sur la définition du bonheur et ce n'est pas chose aisée.
Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Il n'aime pas qu'on l'appelle le pape du bonheur sinon il voit tout rouge. Quel est le menu de vos choses vues?
Un but mesquin d'homme faible, un désastre, un horrible mot, un truc qui n'existe pas. C'est quoi? Ne cherchez pas, c'est le bonheur. Je vous explique ça tout à l'heure.
À tout à l'heure, Christophe. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
22h heure de Paris, les sirènes retentissent. Un peu partout dans le pays, les Israéliens courent se mettre à l'abri. Pour la première fois, l'Iran tire vers l'État hébreu situé à 1500 km.
Plus de 6 mois de guerre et toujours autant de fumée au-dessus de Gaza.
Il est près de 16h hier en Australie quand un homme armé d'un couteau s'attaque à quiconque se trouve sur son passage dans ce centre commercial.
Cet après-midi à Kassi, 27,8 degrés. Record de chaleur battu pour un mois d'avril.
Au total, plus de 40 missiles et 40 drones suicides se sont abattus sur tout le pays dans la nuit, comme ici à Mykolaïv, au sud de l'Ukraine, où la frappe a fait 2 morts et 4 blessés.
Montage réalisé par Maria Pasquet. Comment être heureux par gros temps? C'est notre question ce matin. Bonjour Valérie Lehoux.
Bonjour.
Vous êtes la co-rédactrice en chef avec Nathalie Chrome du très bon hors-série de Télérama « Pensez le bonheur ». Dans votre éditorial, vous écrivez, je vous cite, « Sa seule évocation pourrait sembler indécente à l'heure où tant de malheurs s'abattent, violence, perte, humiliation, pauvreté, ici ou là-bas ». À l'image donc de ce bref medley que nous venons d'entendre.
Ben oui, je pense que vraiment ce montage... qui met en exergue ce qui nous entoure beaucoup, montre à quel point le malheur du monde, ou les malheurs du monde, s'abattent sur en tout cas une partie du monde en ce moment. Et puisqu'on est connecté de tous les côtés, mais forcément on ne peut pas y être indifférent, on ne peut pas être imperméable à ça. Pour la petite histoire, votre montage a commencé par les alertes qui... on résonnait dans toute Israël samedi soir. Il se trouve que j'y étais 2 heures avant. J'ai pris l'avion puisque j'étais en reportage. Je suis partie juste avant et je peux vous dire que j'ai vu, puisque j'étais partie faire un reportage sur les militants de la paix, qui forcément représentent un espoir en Israël. Je peux vous dire qu'ils sont pas heureux, que ce pays est triste, évidemment. Ce qu'on mesure pas forcément de l'étranger. On parle pas des gens qui sont sous les bombes à Gaza. Et pourtant, est-ce que pour cela on doit s'empêcher d'être heureux? est-ce qu'on doit s'empêcher de penser à ce qu'est le bonheur et éventuellement à le rechercher? Ben, il me semble que non. Enfin, évidemment que non, puisque sans doute que ça fait partie, enfin, je pense que c'est vraiment une part indéfectible de l'être humain. Et c'est pour ça qu'on a voulu, on n'a pas de leçon à donner, nous, hein, on a laissé la plume à une quinzaine d'auteurs, beaucoup de philosophes, des sociologues, des historiens. Et une chanteuse aussi, une écrivaine,
Barbara
Carlotti, qui nous disent voilà, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Parce qu'en effet, comme vous le disiez, Marie-Laure, le premier grand écueil, c'est qu'est-ce que c'est? Et puis après, qu'est-ce qu'on fait avec la définition qu'on en donne?
Dans leur série, une belle contribution de la romancière et traductrice Agnès de Sarthe. Elle rappelle qu'au début des années 1990, je la cite, la première guerre du Golfe éclatait, on voyait naître des conflits en ex-Yougoslavie, au Rwanda, les Hutus s'armaient contre les Tutsis, on découvrait les conséquences de la catastrophe nucléaire, on continuait de mourir du sida, la crise de la vache folle battait son plein. Valérie Lehoux, contrairement aujourd'hui peut-être, il y avait encore de l'espoir, voire de l'espérance, il y a 35 ans.
Vous avez vu ce qu'elle dit, Agnès de Sarthe aussi. Elle dit qu'à un moment, elle a hésité à écrire ce texte. Elle aussi, elle s'est dit, mais enfin, pourquoi est-ce que je vais écrire sur le bonheur? Est-ce qu'on peut être heureux aujourd'hui? Et puis, en réfléchissant, eh bien, le bonheur surgit là où on ne l'attend pas forcément. C'est vrai qu'en parlant devant Christophe André, j'ai l'impression de parler devant un expert du bonheur, donc je ne sais pas si je parle un peu sous votre autorité. Voilà, le bonheur surgit là où on ne l'attend pas, il est quand même toujours là, quoi. Et c'est ça qui est formidable. Et je trouve que son texte, qui est donc le texte qui ouvre ce hors-série, est vraiment une bonne introduction à tous nos déchirements et nos interrogations intérieures.
Et elle écrit « Le bonheur est toujours rétrospectif ».
Alors ça c'est tel qu'il dit. J'espère qu'on peut aussi l'apprécier sur le moment. D'autres auteurs signalent à quel point on peut peut-être en s'ancrant dans le présent, ce qu'on fait trop peu. Hein, c'est vrai qu'on pense trop souvent à ce qui est passé, en se disant « Ah, j'étais plus heureux à ce moment-là », à ce qui viendra, en se disant « Ah, est-ce que je serai plus heureux demain ?» Et du coup, on ne sait pas s'ancrer sur le présent. Et c'est drôle parce que quelqu'un qui n'a rien à voir avec les auteurs qui sont là, mais avec lequel j'ai beaucoup travaillé, qui était Jacques Higelin, le chanteur, m'a appris ça, qu'il fallait s'ancrer dans le présent. Et dans le présent, dans le présent, parce qu'on regarde un paysage, par exemple, de Corse. C'est drôle parce que la Corse est citée par deux auteurs dans ce numéro, par Laurence de Villers et par Barbara Carlotti, parce qu'on va écouter les bruits de la nature, parce qu'on va voir un beau paysage, parce qu'on va partager un moment avec quelqu'un qu'on aime. Eh bien, il faut prendre conscience que oui, peut-être que là, on est en train de toucher une forme de bonheur.
Bonjour André Comte-Sponville.
Bonjour.
Philosophe, professeur de philosophie, on vous doit notamment un dictionnaire philosophique publié au PUF, et vous contribuez hors série de Télérama. Et vous rappelez ce célèbre double constat de Pascal sur le bonheur. Nous sommes voués à le chercher, et dans le même temps, on n'arrive pas à l'atteindre.
C'est ça, tous les hommes veulent être heureux, y compris celui qui va se pendre, écrit Pascal. Et il ajoute en effet que ce bonheur que tout le monde recherche, personne, sans la foi, ne peut l'atteindre. Puisque pour Pascal, il y a un bonheur possible dans la foi, dans l'espérance d'une autre vie. Mais moi qui suis athée, je laisse ça de côté. Et moi, je suis parti de là, et je suis parti d'un paradoxe en vérité. C'est que Pascal nous dit que le bonheur est impossible. Freud, d'ailleurs, trois siècles plus tard, dit la même chose. Et pourtant, quand on interroge les Français, mais c'est vrai dans d'autres pays, 70%, 80% des Français répondent qu'ils sont, quand on leur demande « êtes-vous heureux ?», 80% des Français répondent que oui. Alors ça, c'est très étonnant. Pascal nous dit « personne ne peut être heureux », 80% des Français prétendent l'être. J'en conclus qu'ils n'ont pas la même définition du bonheur. Vous savez, c'est un peu ce que disait Einstein. Un journaliste lui demandait « Monsieur Einstein, croyez-vous en Dieu ?» Einstein a répondu « Écoutez, dites-moi ce que vous entendez par Dieu, je vous dirai si j'y crois ou pas. » Ben, c'est pareil pour le bonheur. Dites-moi ce que vous entendez par bonheur, je vous dirai si ça existe ou pas. Et donc, je pense que Pascal a raison. Si on entend par bonheur ce que moi j'appelle la plénitude, c'est-à-dire la satisfaction de tous nos désirs, alors ça n'arrivera jamais, on pourra y revenir, ou si on entend par bonheur ce que j'appelle moi la félicité, c'est-à-dire une joie constante, permanente, immuable, ça n'existe pas, ça n'arrivera jamais. Et donc si les Français, ou encore une fois c'est vrai aussi des Polonais ou des Chinois, répondent qu'ils sont heureux quand on les interroge, ça veut dire qu'ils n'entendent pas par bonheur un état de pleine satisfaction, ce qui est le sens pourtant qu'on trouve au mot bonheur dans le dictionnaire. qui peut croire que 80% des Français sont pleinement satisfaits? Faudrait mal connaître les Français et ne pas lire la presse, si vous voulez. Ça veut dire que le bonheur, ça n'est pas une pleine satisfaction, ça n'est pas la plénitude, ça n'est pas la félicité. Alors, si vous me donnez quelques minutes, je pourrais essayer de vous proposer une autre définition du bonheur et après avoir dit ce qu'il n'était pas, essayer de vous dire ce qu'il est.
On reviendra tout à l'heure sur cette définition du bonheur et vous citiez Freud et dans la lignée de Pascal, Freud écrivait à propos de la recherche du bonheur, ce programme est absolument irréalisable, tout l'ordre de l'univers s'y oppose, on serait tenté de dire qu'il n'est point entré dans le plan de la création, que l'homme soit heureux. Quoi qu'il en soit, André Comte-Sponville, quelles que soient les époques, plus ou moins tragiques, nous sommes mus par une quête inextinguible de bonheur.
Oui, bien sûr, encore une fois, mais c'est vrai, je citais Pascal, mais Platon, Aristote, Épicure, les stoïciens, tout le monde dit la même chose. Reste à savoir ce que c'est que le bonheur. Alors, si le bonheur n'est ni la félicité, ni la plénitude, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous proposer une définition qui va vous paraître à la fois triviale et décevante, et que pourtant, je crois, très éclairante. Alors, pourquoi est-ce que c'est difficile de dire ce qu'est le bonheur? Parce que, comme disait Kant au XVIIIe siècle, Kant écrit « le bonheur est un idéal non de la raison, mais de l'imagination. » Autrement dit, le bonheur, tout le monde en rêve, idéal de l'imagination, mais personne ne sait exactement ce que c'est, ni encore moins comment l'atteindre. Et moi, donc, je vais vous proposer une définition triviale et que je crois éclairante. Ma définition est la suivante. Le bonheur, c'est simplement le contraire du malheur. Vous allez me dire, on n'est pas très avancé.
J'allais vous le dire.
On est considérablement avancé. Parce que le bonheur, à la limite, personne ne sait ce que c'est, idéal de l'imagination. Mais le malheur, ce n'est pas un idéal de l'imagination, ce n'est pas un idéal du tout. Le malheur, c'est une expérience. On l'a vécu ou on ne l'a pas vécu. Il se trouve que moi, comme des millions de gens, j'ai vécu le malheur. Et je vais donc pouvoir m'appuyer sur cette expérience vraie du malheur pour savoir ce que c'est, puisque là, c'est de l'ordre de l'expérience. Et si, par hypothèse, le bonheur, c'est le contraire du malheur, si je sais ce qu'est le malheur, je dois pouvoir savoir ce qu'est le bonheur. Alors, mon expérience vraie du malheur m'amène à proposer la définition suivante. J'appelle malheur tout laps de temps, toute durée, où toute joie paraît immédiatement impossible. Vous vous réveillez le matin, la joie n'est pas là, et vous savez de source sûre qu'elle ne sera pas là de la journée, ni les jours ou les semaines qui suivent. Parce que vous avez perdu l'être que vous aimiez le plus au monde, ou parce que vous souffrez atrocement d'une maladie incurable, que sais-je. La joie vous paraît impossible, vous êtes malheureux. Le bonheur, disais-je, c'est le contraire du malheur. Eh bien, si le malheur, c'est tout laps de temps où toute joie paraît immédiatement impossible, j'appelle bonheur tout laps de temps, toute durée, où la joie paraît immédiatement possible. Pas toujours réel, arrêtez de rêver, ça c'est la félicité, ça n'existe pas. Mais immédiatement et continuellement possible. Par exemple, vous vous réveillez le matin, la joie est là ou elle n'y est pas. Pour moi, pour tout vous dire, le matin, elle y est rarement. J'ai des réveils plutôt difficiles. Mais vous savez que la joie peut venir, qu'elle viendra sans doute dans la journée, et puis qu'elle repartira, et puis qu'elle reviendra. Eh bien, ces longs moments, parce que là, ça peut durer des mois ou des années, ces longs moments où la joie vous paraît immédiatement et continuellement possible, c'est ce que j'appelle le bonheur. Ça veut dire que lorsqu'on demande aux Français « êtes-vous heureux ?», leur première action, c'est de se dire au fond « je ne suis pas malheureux ». Et si je ne suis pas malheureux, alors effectivement, je suis heureux. Et ça éclaire notre rapport au malheur du monde que vous évoquiez au début de l'émission. Parce qu'au fond, si on souffre du malheur qui frappe ici ou là, pensons à la Palestine ou à l'Ukraine en ce moment, c'est qu'on a le sentiment qu'ils souffrent beaucoup plus que nous, que peut-être pour eux, toute joie actuellement est impossible. Mais vous et moi, soyons honnêtes, on ne va pas renoncer à toute joie sous prétexte qu'il y a des horreurs ailleurs. Et donc voilà, ne rêvons pas d'être toujours joyeux. Ce que j'appelle la félicité, ça n'est qu'un rêve, ça n'est qu'une illusion. Ne rêvons pas que tous nos désirs soient satisfaits. Ce que j'appelle la plénitude, la satiété, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'une illusion. Mais profitons de la chance que nous avons, que la joie pour nous soit au moins possible.
Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour Ali Rebbi.
Vous êtes normalienne, agrégée de philosophie, grande spécialiste de la philosophie du XVIIe siècle. Vous aviez publié en 2017 chez Albin Michel « Le bonheur sans mesure ». Vous êtes en Corse donc, bien heureuse Laurence de Villers. Est-ce que vous partagez cette définition du bonheur d'André Comte-Sponville ?
Alors, j'aurais pas grand-chose à ajouter, hein. Je crois que tout est dit, mais c'est peut-être un petit décalage que j'ai avec André Comte-Sponville. D'abord, André a cité Pascal, donc je vais pas laisser passer l'occasion. Je pense que cette définition que tente Pascal du bonheur, si tant est qu'il puisse y avoir une définition, que ce soit vraiment essentiel, je suis pas certaine. Je crois qu'il y a des expériences du bonheur qui se passent de définition, mais ce que dit Pascal, c'est que le bonheur est plus grand que le plaisir. Le bonheur est plus grand même que notre désir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le bonheur qui ne se réduit pas, qui est irréductible et qui est plus que ce qu'on attendait, qui est plus que le bien-être qu'il nous procure. Et ça, je pense que ça peut parler même aux athées. Alors évidemment, Pascal ajoute cette capacité que nous avons au bonheur. Il y a une capacité en nous au bonheur. Il y a une prédisposition. Chez Pascal, on est quand même chez Pascal, elle est vide. C'est-à-dire qu'en fait, on a perdu l'objet de notre bonheur. Et on va le remplir de plein d'autres choses. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que d'emblée, si on suit Pascal, il y a quelque chose dans le bonheur qui est plus que ce qu'on pourra dire du bonheur. Et alors là, voilà où est mon décalage avec André Comte-Sponville, si jamais c'est possible, hein, qu'il y ait un décalage entre nous, mais... C'est que moi, je pense qu'on peut pas se contenter du fait que le bonheur, c'est le contraire du malheur. Mmh. Parce qu'il y a ce quelque chose en plus dans le bonheur. Cette irréductibilité du bonheur que j'expérimente. Et puis moi, je vais aller plus loin encore, mais ça sera sujet à discussion. Je pense que dans le bonheur, il y a l'expérience d'une forme, oui, je vais dire le mot, de transcendance. Mmh. Il y a plus que ma capacité à l'éprouver. Et c'est ça qui fait que, je crois, on a du mal à le définir parce que le bonheur nous tombe dessus. Le bonheur, c'est ce qui nous arrive. Valérie Lehoux disait, le bonheur, il surgit. Oui, le bonheur, il est donné. Ça veut pas dire qu'il faut pas savoir l'accueillir. Mais je crois que notre difficulté à le définir, c'est parce que, comme son étymologie l'indique d'ailleurs, hein, c'est à la bonne heure. Donc c'est... Ce moment qui nous tombe dessus, qu'on n'a pas toujours prévu, et qui contient plus que ce qu'on avait prévu.
Valérie Lehoux.
Comment ?
Valérie Lehoux voulait intervenir.
Oui, non, je voulais juste dire à Laurence de Villers, c'est amusant parce que j'ai eu conscience, ces dernières semaines, d'avoir un moment d'ailleurs, de bonheur. J'en ai pris conscience physiquement. Je me suis dit, tiens, je suis heureuse. Et la façon dont ça s'est traduit dans ma prise de conscience, c'est que j'ai eu la sensation d'un agrandissement de moi-même. Voilà. Que j'étais une personne augmentée par cette sensation de bonheur. Et quelques jours après, je lis le texte de l'interview que Marie-Hélène Chabert de Télérama fait de Laurence de Villers. Et vous parlez de ça. Et je me suis dit, tiens, c'est extraordinaire. Voilà, une philosophe qui met un mot sur une sensation que je viens de ressentir. Ouais. Et ça aussi, d'ailleurs, ça a été un moment de bonheur de le lire.
Laurence Villers, en quelques mots.
Merci Valérie, je suis contente parce que j'ai essayé justement de me dire, laissons tomber la définition du bonheur parce que comme l'a dit André Comte-Sponville, Kant a réglé son compte, c'est-à-dire le bonheur, dit Kant, c'est un idéal de l'imagination. Bien sûr, on en rêve, on se dit ça serait la satisfaction de tout. En gros, je serais belle, riche, célèbre et Ali Rebéi me ferait parler tous les jours. Mais bon, on sait que c'est pas possible. En revanche, Quand on réfléchit à ces expériences de bonheur, je crois qu'on peut les décrire et qu'on peut les partager. C'est-à-dire que je crois qu'il y a quelque chose comme d'abord l'expérience de quelque chose d'immédiat. Il y a un soulagement immédiat, il y a une libération. Et puis je crois qu'on gagne en amplitude. Tout d'un coup, ça s'élargit. Notre horizon s'élargit, peut-être même notre thorax, on respire plus large, on voit plus large. Donc je parlais de transcendance, oui, je crois qu'il y a, on fait l'expérience qu'il y a plus en nous que ce qu'on imaginait. Il y a plus en nous que ce qu'on désire, mais c'est pas une transcendance qui irait là-haut, au-delà, vers le divin, vers des Olympes qu'on n'atteindra pas. Je crois que c'est une transcendance horizontale. Et je me rends compte que, alors peut-être que là je vais rejoindre André Comte-Sponville, je me rends compte à quel point je devais être dans la lutte, dans le resserrement, dans le petit souffle, dans quelque chose de petit et d'étriqué pour que quand je ressente le bonheur, je me dise « Ah, oh, Quelle libération, quelle amplitude j'ai gagnée.
Bonjour Émile Guéry.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, écrivain, directeur général adjoint de Sociovision, l'auteur de L'échappée belle, l'art de s'évader un peu chaque jour, publié au PUF. Votre regard de sociologue sur le début de notre conversation.
Alors moi, je reprendrai ce qu'a dit André Comte-Sponville sur les 80% de Français qui disent dans les enquêtes qu'ils sont heureux. Parce que c'est vrai, ça fait des années que, enquête après enquête, celles qu'on fait nous, celles que font beaucoup d'instituts ou d'universités, on a ce chiffre-là. Alors je préciserai qu'il y a une échelle du sentiment de bonheur, et c'est souvent les plutôt heureux qu'on a. Nous, on a un chiffre, c'est 78%, c'est la dernière enquête qu'on ait réalisée.
Oui, vous avez interrogé 6000 personnes âgées de 15 à
75 ans. Voilà, 78%.
Représentatif
de la population française. C'est une enquête qu'on fait chaque année. Et c'est 78%, c'est énorme. C'est-à-dire, surtout quand on pense au contexte, la guerre, enfin, tout ça a été rappelé. Et en même temps, dans la même enquête, il y a seulement 44% qui se disent optimistes pour l'avenir. Et c'est ce paradoxe qui nous a amené à aller plus loin pour essayer de comprendre ce que disaient ces chiffres. C'est-à-dire qu'on peut être heureux tout en étant pessimiste. Il y a 34 points d'écart entre les deux indicateurs. Et pourquoi cela? Et alors, on a fait des analyses dans la même enquête, on avait posé énormément d'autres questions sur l'état de santé des gens, les valeurs, les aspirations, et on a fait ce qu'on appelle en statistique des régressions pour essayer d'expliquer le sentiment de bonheur. Donc, on a regardé les 8% qui se disaient très heureux, on a essayé de voir qu'est-ce qui expliquait ce fait-là. Il y a 5 facteurs qu'on a identifiés, c'est important de les avoir en tête. Le premier, c'est le plus important, c'est le sentiment que que notre vie a un sens. Et ça a expliqué que 25% du sentiment de bonheur. C'est-à-dire que les gens très heureux sont des gens qui pensent que leur vie a un sens. Le deuxième facteur, c'était le sentiment de sécurité financière. Oui. On dit souvent l'argent ne fait pas le bonheur, mais en réalité, il y contribue. Non pas qu'il faille être riche pour être heureux, mais il faut avoir un minimum de stabilité ou de sécurité financière qui nous permette de voir venir et de ne pas avoir peur du lendemain. Le troisième facteur, et ça c'est très important, c'était le lien. C'est-à-dire que les gens très heureux sont souvent des gens entourés. D'une âme sœur, d'un amoureux, d'amis ou de famille.
C'est ce que révèle par exemple l'étude menée par l'université Harvard depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui, c'est une constante, c'est-à-dire que le lien contribue puissamment à ce sentiment de bonheur.
Tout à fait, et dans la plupart des enquêtes, celles que vous citez ou les nôtres, les gens seuls sont souvent les plus malheureux. Il y a des gens seuls heureux, mais la majorité des gens seuls sont plutôt malheureux. Le quatrième facteur, c'est le sentiment d'utilité. C'est-à-dire le sentiment que ce qu'on fait dans la vie, notre travail, est utile aux autres. Je pense juste les agriculteurs qui sont accablés de travail, qui sont peu rémunérés pour la plupart d'entre eux. Et pourtant, leur travail est très utile. Donc là, ils peuvent se sentir heureux de ce fait même. Et beaucoup de professions sont dans ce cas-là. Et puis le cinquième facteur, vous étonnera pas, c'est la santé. C'est-à-dire que, évidemment, le fait d'être en bonne santé, André Comte-Sponville l'a rappelé, c'est important pour expliquer le sentiment de bonheur. Vous voyez, ces 5 facteurs, c'est-à-dire que plus vous êtes fort sur un de ces facteurs, dans l'enquête qu'on a faite, évidemment, plus votre propension à être heureux est importante.
Allez, comment trouver le bonheur en 2024, malgré tout, par gros temps? Ce sera juste après avoir écouté les Daft Punk, Around the World, un titre sorti en 1996, 10h28 sur France Inter. Thank you. fait danser Valérie Lehoux de Télérama, les Daft Punk Around the World.
Grand bien vous fasse.
Ma petite taf, tu vois, je gagne pas des masses, mais bon, je suis heureux comme ça, alors.
Ali Rebéi.
Mais t'es malade, attends, moi je gagne 100K par mois, bonhomme. Tu vois, c'est ça le bonheur.
Sur France Inter.
Comment trouver le bonheur en 2024? C'est notre thème ce matin avec le hors-série de Télérama Penser le bonheur. Je vous propose d'écouter la sociologue Eva Illouz en 2018 sur France Culture.
Il s'agit pour nous aussi de créer ce que j'appellerais des nouvelles hiérarchies émotionnelles, où ceux qui râlent, ceux qui sont déprimés et ceux qui sont en colère sont pathologisés. Alors il faudrait quand même rappeler qu'une grande partie de la contestation sociale et de l'expérience sociale consiste justement à ressentir des sentiments négatif. Donc si on pathologise ces sentiments négatifs, on fait deux choses. D'abord, on rend inintelligible la relation que notre expérience peut avoir à des institutions et à la façon dont ces institutions ne répondent pas à nos besoins. Et la deuxième chose, c'est de nous surresponsabiliser dans le fait de ne pas se sentir bien. Donc ce culte du bonheur a créé ce que j'appellerais des méta-émotions, c'est-à-dire une émotion sur une émotion, parce qu'on peut être en colère ou être déprimé et avoir tout à coup honte de cette colère ou de cette déprime. Donc on n'en parle plus, ou alors si on en parle, c'est simplement dans le cadre privé d'une consultation psychologique. C'est un effet encore plus marqué de ce culte du bonheur, c'est de privatiser la souffrance.
Eva Illouz en 2018 sur France Culture. Alors, dans les années 1990, une science du bonheur est apparue. Et l'un de ses bras armés, c'est la psychologie positive, hein, mise au jour par le professeur à l'université de Pennsylvanie, Martin Seligman, pour schématiser à très grands traits, selon la psychologie positive, le bonheur serait avant tout une histoire de capacité personnelle. Je schématise vraiment à grands traits, Christophe André.
Un peu. Mais bon. Non, mais c'est un débat passionnant, parce qu'on parlait tout à l'heure de la difficulté à définir le bonheur. Mais Eva Illouz parler de ces excès qui consisteraient à pathologiser tous ceux qui sont déprimés, alors faut définir aussi la dépression, c'est quand même un souci. Bon, moi en tant que psychiatre, je suis plutôt spécialiste du malheur et confronté à des gens qui n'arrivent pas à être heureux, avec cette conviction qu'ils souhaiteraient l'être un petit peu plus, c'est qu'il est possible de les aider à s'en rapprocher. Alors évidemment, on peut nous accuser après de faire une sorte d'orthopédie psychologique. Mais nous, notre message, c'est pas on doit être toujours heureux. Notre message, c'est notre boulot, c'est de permettre à des gens qui souffrent de diverses pathologies psychologiques de se rapprocher du bonheur. Et pour nous, le bonheur, la définition du bonheur, elle se rapproche beaucoup de ce que racontait, de ce que disait, de ce qu'expliquait tout à l'heure André Comte-Sponville. C'est au fond l'absence de ce sentiment très concret, très réel, de cette expérience, disait André, du malheur, et la possibilité de pouvoir, de temps en temps, dans la journée, me sentir soulagé de ce malheur, me sentir heureux, légèrement, petitement, grandement, etc. Et pour finir, nous, notre boulot, c'est pas de spéculer sur bonheur et malheur, c'est de rapprocher les gens du bonheur. Et pour nous, il y a une double source dans le bonheur. Il y a une source extérieure, il y a des événements qui nous rendent follement heureux. Avoir un enfant, voir nos proches épanouis, réussir, le succès, bon voilà, toutes ces choses-là. Donc là, j'ai pas beaucoup de boulot à faire, le bonheur vient à moi, effectivement, il surgit dans ma vie, il déboule dans ma vie, et il est tellement fort que ma part est minime. Mais parfois, la part de l'extérieur est très faible, et c'est ma part à moi qui va grandir. On a un très bel exemple de ça dans les écrits de Eti Ilsoum, qui est dans un camp je sais pas, c'est pas des camps de concentration, mais c'est aux Pays-Bas, elle est juive, les nazis entassent les citoyens néerlandais juifs dans des camps de préparation avant les envoyer au camp de la mort. Et elle raconte ses efforts pour être heureuse malgré ça. Rien autour d'elle ne lui permet d'être heureuse, mais elle synthétise le maximum de bonheur possible. Et surtout, elle fait un truc très important, elle essaie de le redistribuer. Le bonheur, c'est une richesse, et comme toutes les richesses, il impose des devoirs. Devoirs de partage, devoirs de réserve aussi, de modestie. Voilà, donc nous, c'est vrai qu'on a un angle sur le bonheur différent. On est des soignants, on est des médecins, c'est autre chose.
Valérie Lehoux.
Oui, mais ce qui me semble vraiment important et intéressant aussi, en regard et en réponse et en écho à tout cela, quand Eva Illouz dit, elle parle de cette honte qu'on peut ressentir à ne pas être heureux. Ou être en colère, ce qui est quand même incroyable. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est tiraillé entre la honte d'être malheureux, c'est-à-dire dans cette, ce qu'elle appelle elle, la apicratie, cette injonction permanente au bonheur, à la réussite, etc., à l'accomplissement. Et, comme vous le disiez au début, cette honte qu'on aurait aujourd'hui à être heureux dans ce monde si malheureux. Et je trouve que à la lecture, c'est pas pour ça qu'on l'a fait, hein, le hors-série, on l'a lancé pour nous aider à réfléchir à cette idée, cette quête quand même qu'on partage tous. Et à la fin, quand je le lis, je suis contente parce que d'abord, je trouve que ça nous enlève à nous, lecteurs, beaucoup de complexes. D'abord, on se rend compte que des gens très 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 intelligents qui passent leur temps à réfléchir à ça ne sont pas tous d'accord sur la définition du bonheur. Donc, il n'y a pas que nous qui avons du mal à le définir. Et puis, ça permet aussi de ne plus avoir honte de ne pas être heureux et de ne pas avoir honte d'être heureux. Et c'est vrai qu'on est... Et là, ça rejoint une question vraiment politique aussi. Qu'est-ce que c'est que le bonheur et qu'est-ce que c'est que le droit au bonheur et d'afficher son bonheur et de ressentir le bonheur au sein d'une société? Est-ce que c'est un bonheur individuel, un bonheur collectif? Et il y a aussi une contribution que je trouve très intéressante de Michael Fossel, le philosophe.
À l'école polytechnique.
Ah, ouais, absolument. Et qui rappelle à quel point c'est fondamentalement une question politique. Et il évoque aussi l'occupation des usines en 36. Et puis cette chanson qui est venue après, qui reste un peu comme un symbole du Front populaire, qui était « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» Bah oui, qu'est-ce qu'on attend? Tout le monde pourrait chanter ça, qu'il ait a priori le droit ou pas au bonheur.
Votre regard, André Comte-Sponville?
D'abord, je suis d'accord tout à fait avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais avoir honte ni d'être heureux, ni de ne pas l'être. Autrement dit, le bonheur n'est pas un devoir. Quand on est heureux, profitons-en, sans honte, mais quand on n'est pas heureux, on ne va pas en plus se le reprocher. Donc ça me paraît tout à fait important. Pour le reste, il y a la question du rapport au temps. Je réagis à ce que disait Laurent de Villers qui nous dit, au fond, le bonheur, pas besoin d'une définition, j'ai des expériences de bonheur. J'ai des moments de bonheur. Alors d'abord, pour reconnaître un moment de bonheur, il faut savoir ce qu'est le bonheur. Donc on a besoin d'une définition. Mais surtout, je ne crois pas que le bonheur relève du moment. Il y a des moments de joie, des moments de plaisir, des moments de sérénité. Mais quand on parle de bonheur au sens ordinaire du terme, semble-t-il, on est plutôt dans la longue durée, ou du moins dans une durée qui se compte en semaines ou en mois. Vous savez, Aristote écrivait « Une hirondelle ne fait pas le printemps ». Pas plus que trois beaux jours ne font un bonheur. Autrement dit, quelqu'un qui est heureux pendant trois jours, on ne parlera pas vraiment de bonheur. On parle trois jours de joie, trois jours de plaisir. En tout cas, voilà le sens que moi je donne au mot bonheur, il relève plutôt d'une durée plus longue. Il y a des moments de plaisir, il y a des moments de joie, mais on peut être heureux très bien. Je peux très bien vous dire, je suis heureux depuis plusieurs années. Ça veut dire que depuis plusieurs années, quand je me réveille le matin, encore une fois, la joie est là ou elle n'y est pas. Le plus souvent, elle n'y est pas, mais je sais qu'elle peut venir. Autrement dit, ça fait des années que je n'ai pas été malheureux. Et ça, c'est une expérience très importante. Quelqu'un parlait du bonheur comme rétrospectif. Ça me faisait penser à la formule, à la jolie formule de Prévert. J'ai reconnu mon bonheur au bruit qu'il fit en partant. Autrement dit, quand on retombe dans le malheur, on se dit, j'étais heureux. Et là, mieux vaut s'en rendre compte avant de l'avoir perdu. Vous voyez, mais ça veut dire que si on accepte que le bonheur relève de cette durée au moins relativement longue, ne le confondons pas avec un petit plaisir, qui est une façon, à mon avis, de réduire la chose. Au fond, quand on a des enfants, ce qu'on rêve pour eux, c'est d'abord qu'ils soient heureux. Pas seulement qu'ils aient des moments de bonheur, qu'ils soient heureux. C'est-à-dire que ce qu'on craint pour eux, c'est le malheur. Et encore une fois, je crois que ce qu'il y a de plus solide, de plus profond, de plus vrai dans cette notion de bonheur, c'est la différence avec le malheur. Parce que là, pour ce qui est du malheur, c'est vraiment une expérience. Quand la joie est impossible, la vie est atroce. Alors ça veut dire que le bonheur, du même coup, c'est pas un absolu. Parce que la joie possible, elle est possible, mais elle est plus ou moins fréquente, plus ou moins probable. Vous voyez, le bonheur, c'est pas un absolu, c'est du relatif. Mais qu'est-ce que c'est bon? Si bien que quand quelqu'un me dit qu'il ne croit pas au bonheur ou que le bonheur, ça n'existe pas, moi, ma première réaction, c'est de me dire, un, en voilà encore un qui confond le bonheur et la félicité ou le bonheur et la plénitude. Donc là, c'est une question de définition. Deux, en voilà encore un qui n'a jamais été vraiment malheureux, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Et Christian... Parce que ceux qui ont été vraiment malheureux au moins une fois dans leur vie, ils savent au moins par différence que le bonheur aussi existe.
Et dans votre sens, André Comte-Sponville,
c'est justement quand on n'est pas malheureux.
Dans votre sens, Christian écrit, et il cite Léo Ferré, « Le bonheur, c'est un chagrin qui se repose ». Laurence de Villers, vous voulez réagir à ce que vient de nous dire André Comte-Sponville?
Ah oui, alors moi je suis contre la banalisation du bonheur, donc je cherche pas du tout à le réduire à des moments de bien-être ou de plaisir. Je pense même que le bonheur peut me tourmenter d'une certaine façon. Et je me demande comment je vais m'en ressortir parce que j'essayais de le dire. Je crois que c'est au-delà des capacités qu'on peut avoir. Je pense que dans l'expérience du bonheur, il y a même une ouverture vers le futur. Alors là, on sera sans doute pas d'accord avec André Comte-Sponville, c'est que je pense qu'il y a dans l'expérience du bonheur à la fois une forme de nostalgie, on se dit mais pourquoi je vis pas comme ça? C'est ça la vie. Et en même temps, il y a le désir de ce qui n'est pas encore. Je crois qu'il y a une forme d'espérance. Et cette expérience du bonheur, elle contient, je crois, tous les temps et pas seulement un simple moment. Et puis, je voulais remercier Rémi Houdguéry parce que, en disant on peut être heureux et pessimiste, vraiment, il m'a soulagée pour très longtemps. Et je pense que c'est important de déculpabiliser. Je crois qu'on nous a fait on nous a constitué en auto-entrepreneurs de nos vies, c'est-à-dire de nos réussites et de nos bonheurs, alors qu'il peut y avoir du bonheur à ne rien gagner. J'ai rien gagné, j'ai rien perdu. C'est pas du tout cette logique comptable, le bonheur. Et puis, je crois qu'il peut y avoir aussi un bonheur à ne pas chercher à s'accomplir. Enfin, moi, les moments où je suis la plus heureuse, c'est quand je me désencombre totalement de moi. Je cherche pas du tout à accomplir quoi que ce soit.
Et vous êtes très sensible, Laurence De Villers, à la philosophie de Nietzsche qui nous invite à acquiescer à la vie dans le pire et dans le meilleur, c'est-à-dire affronter la réalité et y bâtir dans cette réalité son bonheur. C'est ce que vous expliquez notamment dans le hors-série. Rémi Houdguéry.
Oui, juste pour compléter sur le rapport au temps, parce que je pense que dans l'enquête qu'on a menée, justement, on a fait exactement les mêmes analyses sur l'optimisme. Et en réalité, la différence, pour expliquer justement cette espèce de paradoxe entre très heureux et en même temps très pessimiste. Et en fait, la différence entre le bonheur tel qu'il est ressenti par les Français et l'optimisme, c'est que dans le bonheur, on est plutôt dans le sentiment du présent. C'est-à-dire que les gens, ils sont heureux dans le présent parce qu'ils sont entourés d'amis, parce qu'ils sont en bonne santé, parce que leur vie a un sens, parce qu'ils font un travail utile à la société, parce qu'ils, voilà, ils sont pas tracassés par des soucis financiers. Et l'optimisme, on s'est aperçu que c'était très lié justement à une projection sur le futur. C'est-à-dire que les gens sont pessimistes parce que quand ils regardent vers le futur, ils voient le réchauffement climatique, pour prendre ce seul exemple, des guerres qui risquent d'arriver, de l'instabilité un peu partout dans le monde, voyez. Et donc il y a cette, finalement, la contradiction, elle se résout dans le fait que dans le bonheur, on est en effet plutôt centré sur le présent. C'est pour ça que la psychologie positive aide beaucoup, je pense, les personnes à trouver leur bonheur, parce que un des messages, c'est de la psychologie positive, c'est de vivre le moment présent. De se concentrer sur le présent.
Valérie Lehoux.
Juste pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les agriculteurs qui travaillent dans des conditions compliquées et qui sont utiles et qui se sentent utiles. Aujourd'hui, je crois que c'est la profession où il y a le plus fort taux de suicide, à peu près. Beaucoup à cause de la perte de ce sentiment d'utilité, justement. Donc, je pense que là, c'est extrêmement important.
Mais en fait, si vous inversez tous les facteurs dont j'ai parlé, enfin, si vous prenez les facteurs dont j'ai parlé, vous vous apercevrez que dans les tendances de la société aujourd'hui, tout est menace pour le bonheur. Bah, l'utilité que non seulement les agriculteurs, mais beaucoup de professions sont en train de perdre. La solitude, il y a de plus en plus de foyers seuls dans notre société. On avait fait une émission là-dessus. La santé, on parle beaucoup de santé mentale et puis les conditions de l'hôpital sont pas vraiment merveilleuses. Et la crise du sens dont on parle régulièrement. Ce que je veux dire par là, c'est que les cinq facteurs, quand vous les analysez en vous disant quelles sont les tendances aujourd'hui qui vont dans ce sens-là, elles vont plutôt dans le sens inverse.
Question de Marie-Laure Zonshine, Femme Actuelle.
Oui, Christophe André parlait tout à l'heure de cette possibilité. Est-ce qu'on sait forcément la saisir, Rémi Houdguéry? On a déjà évoqué ici le phénomène de psychologie positive, l'habituation hédonique. Finalement, cette usure envers ce qui nous rend heureux, voilà, bon, bah, on passe à autre chose, un nouveau projet chasse l'autre, on a pris des vacances, puis on en reprend, puis on a déjà oublié le souvenir heureux de ce moment passé. Finalement, on s'habitue et on se rend pas compte de ce qu'on a dans les mains. On passe déjà au bonheur d'après, avec comme ça une espèce de détachement. Comment on pourrait changer de paradigme finalement pour prendre la mesure de ce qui est là et de ce vrai bonheur présent qu'on est en train de vivre ou qu'on a vécu?
Il faudrait demander, à Christophe André. Moi, je dirais juste une chose, c'est que je l'ai écrit dans L'Échappée Belle, le livre que j'ai publié sur comment faire en sorte que des contrariétés deviennent des moments de bonheur, en fait. Par exemple, je vais donner un exemple très concret, mais il y a à un moment donné, il y a un avion qui est en retard, ou votre train est en retard, il est annulé. Vous pouvez être très malheureux de ça, maudire le monde entier. Mais vous pouvez aussi vous dire, bah tiens, voici des heures qui me sont rendues, voici un cadeau qui m'est fait par la Providence, et vous pouvez si partir à l'aventure pendant quelques heures et profiter de ce moment-là. Donc je pense qu'une des recettes pour arriver à profiter, c'est aussi de voir dans les imprévus, et notamment les imprévus qui perturbent l'ordre de la vie quotidienne, des moments de... d'aventures possibles et
c'est
de retrouver...
C'est ce que vous racontez dans L'Échappée Belle, là, un train s'arrête dans la banlieue londonienne, vous descendez, vous allez visiter une ville que vous ne connaissez pas.
Et c'est merveilleux parce qu'il fait très beau ce jour-là et que la ville, elle est à la fois banale et charmante et elle est très poétique. Et voilà, donc c'est aussi... Il faut prendre le temps, en fait.
Allez, il est 10h46, l'heure de retrouver Les choses vues de Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Christophe André.
Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui fait du bien, le bonheur. Allez, commençons par une petite revue de littérature. Friedrich Nietzsche. Le bonheur, un but mesquin d'homme faible. Charles Baudelaire, dans une lettre adressée à un certain Jules Janin. « Vous êtes heureux ? Je vous plains, monsieur, d'être facilement heureux. Faut-il qu'un homme soit tombé bas pour se croire heureux ? Je vous plains, et j'estime ma mauvaise humeur plus distinguée que votre béatitude. » Gustave Flaubert, « Bonheur, as-tu réfléchi combien cet horrible mot a fait couler de larmes ? Sans ce mot-là, on dormirait plus tranquille, on vivrait à l'aise. » Arthur Rimbaud. Le bonheur est un désastre. Michel Houellebecq. N'ayez pas peur du bonheur. Il n'existe pas. Eh ben, voilà de quoi donner raison à Aristote quand il écrit « Contrairement à tous les autres biens que l'on cherche en vue d'autre chose, le bonheur est recherché pour lui-même. Il est le souverain bien. C'est sur la nature et la définition de ce en quoi il consiste qu'il n'y a pas accord. Effectivement, il n'y a pas accord sur la nature et la définition, ni sur l'importance et le rôle du bonheur. Mais il y a quand même, me semble-t-il, deux certitudes. La première, c'est qu'a priori, dans l'absolu, tout le monde préfère le bonheur au malheur. Du moins, quand il s'agit de l'éprouver et non d'en causer. Chaque humain s'éveille le matin en souhaitant passer une journée plutôt heureuse et non en espérant une journée de galère et d'adversité. La seconde certitude, c'est que chacun sait que la vie est difficile et que le malheur, les galères, les adversités s'y inviteront, quoi que nous fassions. La conséquence de ces deux certitudes, c'est que le bonheur n'est pas une option, mais une nécessité. Il n'est pas un petit plus, un petit luxe, il n'est pas un écran ou un refuge qui nous permettrait d'éviter le malheur. Il est le carburant de la vie, la source d'énergie qui nous permet de traverser les épreuves. Il n'est pas une naïveté, mais une lucidité. Si, comme le pense Jules Renard, le bonheur, c'est du malheur qui se repose, alors le bonheur, c'est ce qui nous permet de mieux affronter les périodes de retour du malheur. Quand on sait que le bonheur existe, quand on l'a déjà vécu, alors la traversée du malheur sera un peu moins hasardeuse et périlleuse, un peu moins désespérante, et sera peut-être même féconde. C'était en tout cas la conviction de Nietzsche. Quiconque confie au papier ce dont il souffre devient un auteur mélancolique. Mais il devient un auteur sérieux lorsqu'il nous dit ce dont il a souffert et pourquoi il se trouve à présent dans la joie. Ce n'est pas le malheur qui nous rend créatifs et lucides, c'est la traversée du malheur suivie par le retour du bonheur. Voilà pourquoi la quête du bonheur est une affaire sérieuse, une affaire qui nous permet d'affronter l'adversité et d'en tirer éventuellement quelques enseignements.
Christophe André, tous les épisodes des choses vues de Christophe André sont à retrouver sur l'appli France Inter. Allez, dans un instant, nos invités nous diront où trouver le bonheur en 2024. Ce sera juste après avoir écouté David Walters qui interprète Kissa. C'est comme un...
Sell them all about we Ça peut pas oublier. Tu dois m'encrier. Allez s'en virer. Plairez-moi, c'est plaire. Et ça, pas nous l'autre chance, dis-moi. Awa, l'air pardonnez-moi. Awa, garde sans doute, dis-moi. Awa,
Walter s'interprétait qui ça ?
Grand bien vous fasse.
L'amour a ses raisons que la raison ignore.
En attendant, ça doit pas être la rigolade tous les jours.
Ali Rebéi.
Je trouve mon bonheur dans la solitude et dans l'errance.
Sur France Inter.
Encore une chance, hein.
Comment trouver le bonheur en 2024 ? C'est notre thème ce matin avec le hors-série de Télérama « Penser le bonheur ». Charles Thierry a posé la question à des Parisiens la semaine dernière.
Est-ce que vous êtes heureux ?
Ah oui, très heureuse.
Oui, bah oui. Oui, je pense être très heureuse, surtout avec les beaux jours qui reviennent.
C'est très très fluctuant. Ce matin, ça allait pas du tout et là, c'est un peu mieux.
Allez, je pense que la question, c'est quoi être heureux en fait ?
Je suis heureuse quand je peux me lever le matin, dépendre de personne, quand on a la santé. C'est surtout ça.
C'est un peu bateau, mais on s'entoure bien. On voyage un peu, je pense que c'est bien de changer de paysage. Quand on a la possibilité de le faire.
La famille, le métier que j'aime et la nature, le contact avec la nature.
L'amour. Je crois que l'amitié, c'est un ciment pour aller bien, quoi.
On culpabilise un peu les gens qui vont pas très bien.
Globalement, je vois souvent le positif dans les choses et que c'est peut-être pas forcément très agréable à écouter pour quelqu'un qui a du mal à le voir et qui a du mal à trouver du positif dans son quotidien.
38. Pourquoi, quand j'ai a priori tout qui va bien, j'arrive pas à être heureux tout le temps ?
En fait, le bonheur, c'est la simplicité. C'est juste qu'on complexifie la recherche, donc on a plus de mal à le trouver.
Je sais pas si on peut être heureux toute sa vie, comme si tous les jours qui arrivent, on doit être heureux. Ce serait peut-être ennuyeux si on était heureux tout le temps.
Propos recueillis par Charles Thierry la semaine dernière dans les rues de Paris. Alors, autour de la table, qu'est-ce qui vous rend heureux en ce moment, par gros temps ? Tiens, André Comte-Sponville, ça tombe sur vous.
Bah, comme toujours, en 2024 comme en 2023, ce qui me rend heureux, c'est l'amour et l'action. Vous savez, on dit toujours que le bonheur n'est pas dans l'avoir. On a bien sûr raison, mais il n'est pas non plus dans l'être. Nous sommes si peu de choses et pour si peu de temps. J'ai pas passé ma vie à me contempler le nombril, l'âme ou l'ego et à me dire j'existe, c'est merveilleux. Non, mon idée, c'est que le bonheur n'est pas dans l'avoir, il n'est pas non plus dans l'être, il est dans le faire, il est dans l'action, si possible avec d'autres. Autrement dit, le bonheur est dans l'action et la relation.
Laurence de Villers.
Ah oui, alors là, complètement d'accord. Le bonheur est dans l'action et moi, ce qui me ravit toujours, donc c'est une surprise de bonheur, c'est l'action des autres, les bonnes actions des autres. À chaque fois, ça me procure un bonheur inespéré.
Valérie Lehoux.
J'entendais là le micro-trottoir, ça me rappelait que vraiment c'est une question qui date pas d'hier, parce que subitement me revenait l'image de Marceline Loridan-Ivens qui elle-même faisait ce micro-trottoir bien avant qu'on sache qui était Marceline Loridan-Ivens dans un film d'Edgar Morin qui s'appelle je crois Chronique d'un été et qui, si ma mémoire est bonne, doit dater de 1963.
Exactement.
Et voilà, et cet extrait-là a été repris, samplé comme on dit, repris dans une chanson de Vincent Delerme sur le bonheur. Et subitement, d'entendre ce micro-trottoir me faisait penser à celui de 63, du coup à la chanson, et au sentiment de bonheur, chanson qui est plutôt mélancolique, mais au sentiment de bonheur que j'ai en l'entendant, par exemple. Voilà. Donc on est quand même tout le temps relié à nos émotions et à ce bonheur-là qui est dans l'air.
Rémi Audiri ?
Ben moi je dirais que le bonheur est au coin de la rue, il suffit de sortir, de lever les yeux au ciel.
À l'aube, vous êtes un adepte de l'aube.
Oui, à l'aube.
Au petit matin.
Au petit matin, c'est encore mieux parce que on a le monde pour nous-mêmes. Mais oui, être au coin de la rue, regarder simplement, s'extasier d'un petit détail, mais prendre le temps de le faire. La plupart des gens, regardez aujourd'hui, ils ont le nez rivé, enfin le visage rivé à leur écran, et ils ne regardent plus rien. Et le bonheur, c'est ça. C'est très simple.
Et nous accueillons Catherine pour terminer cette émission. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous aviez envie de réagir à notre émission.
réagir dans le bon sens parce que je m'y retrouve vraiment. Mmh. Voilà, je suis une grand-mère de 78 ans. Enfin, mon nom de grand-mère, c'est Mamicha. Voilà, et donc je grappille des petits moments heureux. Voilà, j'ai eu une vie pas très drôle au niveau des décès. J'ai perdu ma mère à 14 ans, j'ai perdu mon ex-mari à 42 ans, et là, j'ai à 5 ans et demi, j'ai perdu ma fille aînée de 48 ans. Mmh. Voilà. Alors, comment se raccrocher, après tout ça, à la vie? D'abord, je me protège des images. J'écoute France Inter le matin, d'ailleurs, un peu toute la journée. Oui, bien sûr, parce que c'est moins traumatisant. J'écoute les nouvelles, je suis pas coupée du monde, mais je ne regarde jamais d'images à la télé. Par contre, à la télé, je regarde la 5 le soir, c'est ce soir, avec des réflexions de gens qui parlent des événements. Donc, je ne me coupe pas du monde. Voilà. Donc, c'est ça ma première protection. Ensuite, je grappille des petits moments heureux avec des livres, des films, du tennis. Je vais marcher les pieds dans l'eau. Je suis pas trop loin de la mer à 25 minutes. Et je marche dans l'eau froide. Ça me fait du bien. Je me baigne pas encore complètement. Je me mets sur la plage au soleil et je pars dans des réflexions et du genre de méditation. Voilà. Et je lis des livres comme celui de Delphine Horviller, Vivre avec nos morts, qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. C'est ce qu'elle a dit de plus terrible sur la perte d'un enfant, de plus beau aussi, voilà. J'ai mes chats, j'ai un petit-fils qui, depuis la mort de sa mère, ma fille, va mal, puisqu'il s'est réfugié dans le cannabis. Et quand j'entends il faut être dans l'action, et ben voilà, je me dis que mon rôle de grand-mère aujourd'hui, c'est m'occuper de mes petits-enfants et surtout d'aider celui qui va mal. Donc, dans l'action et relation, ce qui vient d'être dit, c'est tout à fait ça.
Merci beaucoup, Catherine, en tout cas. Merci pour votre beau témoignage pour terminer cette émission. Merci beaucoup, Laurence De Villers, André Comte-Sponville, Rémi Houdguiri, Christophe André et Marie-Laure Sunshine. Merci, Valérie Lehoux. Le hors-série de Télérama Penser le bonheur est disponible en kiosque. J'ai beaucoup aimé les contributions de Barbara Carlotti, de Marina Van Zulen ou encore de Vinciane Després. Merci à toutes et à tous. Et demain, une sélection de films et de séries qui feront du bien à vos adolescents cette période de vacances scolaires.